Chapitre 1. Dans les chapitres 1 et 2, nous allons voir les gloires de Christ. Le nom de l'auteur de l'épître n'est pas mentionné. Nous pouvons déduire qu'il importe peu pour nous de savoir qui l'a écrite. L'allusion faite par l'apôtre Pierre à une épître que Paul a écrite aux Juifs, qu'il classe parmi les autres écritures, est une des raisons pour supposer que ce dernier en est l'auteur. Voir 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Le caractère spécial de l'épître peut bien expliquer l'omission du nom de l'auteur, car, entre autres buts, elle a été écrite pour montrer que Dieu ne parle plus par des messagers, mais que, dans sa grâce magnifique, il s'est mis en contact direct avec les hommes dans la personne du Fils. De plus, dans cette épître, Christ lui-même est présenté comme l'apôtre par lequel Dieu a parlé à l'homme. Par conséquent, il éclipse tous ceux qui peuvent porter ce titre d'apôtre. Le grand but de l'épître est d'établir les croyants dans le caractère céleste du christianisme et de les délivrer d'une religion terrestre de formes extérieures. Tout dans le christianisme, tant la gloire qu'il rend à Dieu que la bénédiction qu'il assure aux croyants, dépend de la personne et de l'œuvre de Christ. L'épître commence donc en présentant les gloires de sa personne. La gloire divine de Christ, comme Fils, est développée dans le chapitre 1. L'autorité de sa parole, dans les versets 1 à 4 du chapitre 2, et la gloire de son humanité, dans les versets 5 à 18 du chapitre 2. Chapitre 1. La gloire du Fils. Versets 1 à 4. Citation de l'Écriture. Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux, étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Fin de citation. Dieu a autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père en Israël. Dieu avait parlé par Moïse, revendiquant dans la loi ses droits sur l'homme. D'autres fois, Dieu avait parlé par des anges, dans ses voies providentielles envers son peuple. Plus tard, Dieu avait parlé par les prophètes pour ramener à lui un peuple rebelle. Les prophètes sont expressément mentionnés comme précédant la venue du Fils. Le Fils est venu à la fin de ces jours-là, la fin des jours des prophètes. Le témoignage que Dieu a rendu dans le passé s'est continué dans la personne du Fils. Les prophètes ont parlé comme instruments utilisés par l'Esprit de Dieu. Quand le Fils est venu, c'était Dieu lui-même qui parlait. Dans le Fils, Dieu s'approchait des hommes, et l'homme pouvait s'approcher de Dieu sans l'intermédiaire d'un prophète ou d'un sacrificateur. L'importance de quelque message que ce soit dépend, dans une large mesure, de la grandeur et de la gloire de la personne qui parle. Dieu nous a parlé dans la personne la plus glorieuse qui soit, le Fils éternel. Pour que nous découvrions la grandeur de celui qui parle et, par conséquent, l'importance de ce qui est dit, l'Esprit de Dieu place devant nous sept aspects de la gloire du Fils. Premièrement, le Fils a été établi héritier de toutes choses. Les qualités de Fils et d'héritier sont toujours liées dans l'Écriture. Les hommes s'efforcent de posséder la terre, de régner sur la mer, de conquérir l'espace. Ils luttent pour acquérir puissance et richesse, et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. Christ, comme Fils, héritera de tout cela, car il est l'héritier établi de tout, et lui seul en est digne. La longue histoire du monde ne fait que prouver que l'homme est parfaitement indigne d'hériter de ces choses. Quelle que soit la mesure dans laquelle il parvient à s'en emparer, il s'en sert pour s'exalter lui-même et exclure Dieu. Il se sert de la puissance pour affirmer sa propre volonté, de la richesse pour essayer d'être heureux sans Dieu, de la sagesse pour exclure Dieu de sa propre création, de la force pour agir dans l'indépendance de Dieu, de l'honneur pour s'exalter, de la gloire pour se mettre en avant, et de la bénédiction pour l'employer pour lui-même. Quant à l'héritier établi de toutes choses, l'homme l'a entièrement rejeté et l'a cloué sur une croix. Et pourtant, le ciel se plaît à proclamer « Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction. » Lorsque Christ prendra possession de toutes choses, il les emploiera toutes pour la gloire de Dieu et la bénédiction de l'homme. Dans le christianisme, nous sommes identifiés avec l'héritier de toutes choses. Quelle consolation pour ceux qui, comme ces croyants hébreux, sont dépouillés de leurs biens. Deuxièmement, le Fils est celui par qui tout l'univers a été créé. Il a fait les mondes, non pas seulement ce monde-ci, mais aussi tous ces vastes systèmes qui suivent leur cours dans les étendues sans mesure de l'espace. Nous regardons en avant et voyons qu'il est l'héritier établi de toutes choses. Nous regardons en arrière et voyons qu'il est le créateur de toutes choses, grandes et petites. L'empreinte du Fils est sur toute la création. Troisièmement, le Fils est le resplendissement de sa gloire, l'éclat de la gloire de Dieu. Le Fils devenu chair présente la gloire de Dieu dans sa plénitude. Cette gloire de Dieu est la manifestation de l'ensemble de tous les attributs de Dieu. Le Fils s'est approché de nous d'une manière qui nous permet de voir Dieu manifesté dans tous ses attributs. Quatrièmement, le Fils est l'empreinte de sa substance. C'est davantage que le resplendissement de sa gloire. C'est la manifestation de Dieu lui-même, l'expression de son être. Le Fils devenu homme était le représentant visible de celui qui est invisible. Il est possible de porter les attributs d'une personne sans être son représentant. Non seulement les attributs de Dieu resplendissaient dans le Fils, mais il était le représentant de Dieu dans la création. Tous ces actes montraient que Dieu était présent au milieu de nous. Cinquièmement, le Fils est celui qui soutient toute chose par la parole de sa puissance. Même si les hommes admettent qu'il doit y avoir une cause première, ils cherchent à exclure Dieu de toute activité présente dans la création. Ils imaginent une création, comme a dit quelqu'un, suffisante en elle-même, une machine parfaite conçue pour marcher éternellement sans la main qui l'a créée. La vérité est que, non seulement l'univers a été amené à l'existence par le Fils, mais il est aussi soutenu par le Fils. Aucune étoile ne peut maintenir son cours, aucun passereau ne peut tomber en terre sans lui. Sixièmement, le Fils a fait la purification des péchés. Il n'est pas seulement le créateur du monde, il est aussi le rédempteur d'un monde déchu. Il a, par lui-même, accompli une œuvre par laquelle les péchés du croyant peuvent être pardonnés et ôtés de devant Dieu. Septièmement, la gloire du Fils est encore soulignée par la place d'exaltation qu'il occupe maintenant à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Plusieurs fois dans le cours de l'Épître, nous trouvons la mention qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Ici, c'est en raison de sa gloire personnelle. Au chapitre 8, c'est en relation avec son office actuel de grand souverain sacrificateur pour nous. Au chapitre 10, sa position à la droite de Dieu est le résultat de l'œuvre qu'il a achevée à la croix. Et au chapitre 12, c'est comme étant arrivé au terme du sentier de la foi. Après avoir revendiqué les gloires du Fils dans son passage dans le temps et dans sa position actuelle à la droite de Dieu, l'Esprit de Dieu place maintenant devant nous toute l'excellence du nom dont Christ hérite quand il est manifesté en chair. Le nom, dans l'Écriture, présente la gloire qui distingue une personne des autres. Sept passages de l'Ancien Testament sont cités pour montrer que Christ a un nom plus excellent que tout être ou chose créée. Versets 4 à 14. Citation de l'Écriture. étant devenu d'autant plus excellent que les anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré » et encore « Moi je lui serai pour père et lui me sera pour fils » et encore quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage » et quant aux anges, il dit « Qui fait ses anges des esprits et ses ministres une flamme de feu » mais quant au fils, « Ton trône, ô Dieu, est au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et, toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Et ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes ans ne cesseront point. » Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. » Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut ? Fin de citation. Premièrement, Christ a une place et un nom beaucoup plus excellents que les anges. Le psaume 2 est cité pour prouver que, venant dans le monde, Christ prend une place de beaucoup supérieure à celle des êtres créés les plus élevés. Toutes bénies que soit leur position, les anges ne sont que des serviteurs. Mais Christ est le Fils. Jamais il n'a été dit à un être angélique « Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré ». Christ est présenté dans l'Écriture comme étant Fils de toute éternité. Ici, il est salué comme Fils parce qu'il est né dans le temps. Quelqu'un a dit à juste titre, « Il a toujours été le Fils et il sera toujours le Fils. Il était le Fils ici-bas comme homme et il ne sera pas moins le Fils dans l'éternité. » Il ne pourrait y avoir la moindre différence entre le Fils éternel et le Fils né dans le temps, sinon quant à la condition. Pour souligner encore que la gloire de Christ surpasse celle des anges, un verset du second livre de Samuel, chapitre 7, verset 14, est cité, nous déclarant que Christ non seulement était dans la relation de Fils de Dieu, mais que, lors de sa marche dans ce monde, il a toujours joui des privilèges caractéristiques de cette relation, selon qu'il est écrit, « Moi je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. » Un autre passage est encore cité pour montrer que la place que le Fils prend est bien au-dessus de celle des anges. À son entrée dans le monde, il est dit de lui « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. » Psaume 97, verset 7. Non seulement il était l'objet de la louange et de l'adoration dans le ciel, mais, entrant dans le monde, que ce soit dans l'humiliation passée ou dans la gloire millénaire à venir, il est l'objet de l'adoration des armées angéliques. Cet hommage révèle sa gloire, car s'il n'était pas une personne divine, une telle adoration serait absolument déplacée. Deuxièmement, le trône qu'il occupe en entrant dans le monde est au-dessus de tout trône. Les anges sont faits des esprits. Le Fils n'est pas fait quoi que ce soit, mais il est reconnu comme Dieu. Et, en contraste avec les trônes des rois de ce monde, son trône est au siècle des siècles. La citation est tirée du psaume 45 qui, nous le savons, est au sujet du roi. Par l'épître, nous apprenons que ce roi qui va régner sur Israël n'est nul autre que le Fils, une personne divine. Les trônes des hommes disparaissent car ils n'ont pas de fondement juste, mais le trône du Fils est un trône qui demeure car son gouvernement sera en justice. Troisièmement, dans sa grâce, il associe à lui-même des compagnons. Mais, même alors, la citation du psaume 45 nous rappelle qu'il a une place au-dessus de ses compagnons. Personne divine, il est appelé Dieu par celui qui lui parle. Mais en même temps, il est vu comme l'homme parfait sur la terre, duquel il peut être dit « Ton Dieu t'a oint ». En raison de sa perfection morale, son amour de la justice et sa haine de l'iniquité, Il est exalté au-dessus de tous ceux qu'en grâce il s'associe. Quatrièmement, toute la création s'efface devant cette glorieuse personne qui est appelée le Créateur. Le psaume 102 est cité pour prouver que celui qui s'est abaissé jusqu'à devenir l'homme de douleur et de larmes n'est nul autre que le maître de la création par qui la terre et les cieux ont été créés, et lui subsiste, tandis que la création vieillira et périra. Cinquièmement, le temps amène ses changements et prendra fin, mais nous apprenons par le psaume 102 que cette personne glorieuse ne change pas et que ses années ne finiront pas. Sixièmement, aucun ennemi ne peut subsister devant lui. Le psaume 110 est cité pour nous rappeler que tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Dans les jours de sa chair, ses ennemis l'ont cloué sur une croix. Dans les jours de sa gloire, ils seront mis pour le marchepied de ses pieds. Septièmement, Christ, tout en prenant sa place comme homme, est plus grand que tous les anges en ce que, selon le psaume 110, il est placé sur un trône pour gouverner, tandis qu'ils sont envoyés pour servir, comme esprit administrateur, en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Si donc le Fils devient chair, sa gloire est soigneusement maintenue. L'excellence de son nom est vue dans cet ensemble de gloires. Il est plus excellent que les anges. Son trône est au-dessus de tout trône. La création périra, mais lui demeure. Le temps peut prendre fin, mais ses années ne cesseront point. Ses ennemis sont faits le marchepied de ses pieds, et il est assis à la droite de Dieu pour diriger, tandis que les autres servent. S'il entre dans le monde, toutes les créatures de l'univers s'effacent devant lui.